Ainsi donc, quittant Capharnaüm, Jésus se rend en Judée et là, comme à l'accoutumée, il instruit les foules. Et c'est dans ce contexte que quelques pharisiens s'approchent de lui. Mais saint Marc précise pour le mettre à l'épreuve. Et lui demande, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Frères et sœurs, nous comprenons bien à cet instant que le but réel de la question n'est pas de connaître l'opinion de Jésus, mais bien de le mettre en difficulté, comme on dit communément aujourd'hui, de le coincer. Et observons bien que le Christ, celui dont nous disons dans la foi qu'il est la parole vivante, qu'il est le Verbe de Dieu, eh bien, il ne se laisse pas enfermer en de vaines querelles. C'est une observation à l'évidence qui doit être pour nous tous une indication dans notre façon de dialoguer. Et de fait, Jésus ne se laisse pas prendre au piège de la polémique, mais fait de sa réponse un enseignement sur le mariage selon le cœur de Dieu. Alors ensemble, reprenons brièvement le déroulé de la conversation. Comme souvent dans les discussions avec les pharisiens, Jésus répond à une question par une autre question qui renvoie à la Torah. Que vous a prescrit Moïse? Et la réponse des pharisiens est rapide et fait explicitement référence à un passage très connu du Deutéronome. Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Et à cet instant, frères et sœurs, nous voyons que Jésus invite ses interlocuteurs à réfléchir plus loin, à faire un pas de plus, c'est-à-dire à ne pas se contenter d'une interprétation littérale de la loi, mais bien aller en amont, à remonter jusqu'à la volonté de Dieu, Dieu qui est le seul et véritable législateur. En effet, à cet instant, Jésus souligne que c'est à cause de leur endurcissement, l'endurcissement de leur cœur, que Moïse a comme instillé une clause dérogatoire à la volonté profonde de Dieu. Alors on s'interroge, mais quelle est donc la volonté de Dieu? Eh bien, pour découvrir quelle est la volonté de Dieu, nous avons livré par l'Église ce dimanche, oui, nous avons livré à notre méditation ce si beau passage du livre de la Genèse que nous avons entendu en première lecture. En effet, dans ce passage, et c'est fondamental, ce qui nous est affirmé en premier, c'est l'imminente égalité de l'homme et de la femme. Et à cet instant, il faut écarter certaines interprétations fallacieuses qui voudrait faire à croire que la femme serait inférieure à l'homme parce que créée en second ou parce qu'elle fut tirée de la côte d'Adam. Ceux qui tiennent de tels propos, avec simplicité, affichent une ignorance encyclopédique, pour reprendre une très belle formule. Ignorance encyclopédique, en effet, car c'est méconnaître l'intuition sémite. En effet, ce que nous voyons en cet instant, c'est que hommes et femmes sont de la même nature, de la même origine. De plus, nous l'avons entendu, et ça a été le souhait de l'Église dans la traduction de ce jour. Nous avons entendu résonner le mot en hébreu que nous traduisons par « homme » et celui que nous traduisons par « femme ». Ce sont un seul et même mot à la dernière lettre près. De même, à la fin de ce récit, lorsque Adam s'écrie à la vue de la femme, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair », il affirme ce qui est fondamental dans notre foi, c'est l'égalité. À ce sujet, nous voyons bien que le projet de la création, c'est un projet d'amour. Il y a une expression pleine d'humour dans le Talmud qui dit « Il est plus difficile à Dieu d'assortir un couple que d'ouvrir la mer Rouge ». Ça veut dire quoi? Ce que vous-même, frères et sœurs, avez expérimenté. La merveilleuse expérience de l'amour. découvrir que l'on aime l'autre plus que soi-même et découvrir dans le regard de l'autre cette réciprocité. Être aimé par l'autre. Et dans la foi, nous ajoutons par le tout autre qui est le Seigneur, qui est l'Éternel. La foi, l'amour, l'amitié, l'espérance commencent par cette expérience extraordinaire de savoir que l'on est unique aux yeux de l'autre. L'autre passage très important, bien entendu, est celui qui est extrait de l'évangile de Marc. Et ce passage nous indique à comprendre quel est le mystère d'amour de Dieu voulu pour l'être humain. Comment aimer selon le cœur de Dieu? Et sans doute que nous pouvons accueillir la très belle réflexion de la théologienne Lita Bassé qui dit, selon la Bible, l'expression « ils ne feront plus qu'une seule chair » est comme l'évocation d'une intense union, d'une harmonie relationnelle incarnée dans le réel, dans le concret de chaque jour. Mais leur communion n'est pas un engloutissement dans une pensée unique, car c'est essentiel, leur altérité est sauvée. Et en cet instant, nous touchons à quelque chose d'essentiel de la pensée chrétienne sur la personne humaine, sur l'homme et la femme. Comment ne pas citer l'un de nos grands philosophes qui écrivait « La beauté de l'amour, c'est de trouver sa vérité dans l'altérité », c'est-à-dire que l'autre nous révèle à nous-mêmes. Nous le disions en introduction à notre célébration, aujourd'hui même, à Rome, en cet instant, s'ouvre le synode sur la famille. C'est un moment très important dans la vie de l'Église. Rappelons-le, si le mariage est reconnu par l'Église catholique comme un authentique sacrement, c'est parce que sa symbolique est une image réelle de ce qui se joue entre Dieu et l'humanité. En effet, regardons bien, homme et femme, dans le couple, réconcilient la plus indélébile des altérités qui séparent l'humanité. Par sa seule existence, le couple humain démontre que la plus grande différence peut être surmontée par l'amour et devenir ainsi source de joie et de fécondité. Et la notion de fécondité, bien entendu, à la fin de la péricope évangélique de ce jour, est évoquée à travers l'enfant, les enfants que l'on présente à Jésus. Tout cela, nous pouvons sans doute le résumer par l'une des premières catéchèses de saint Jean-Paul II. Très peu de temps après son élection, il disait « L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu ». C'est du reste ce que nous avons chanté dans le cantique introductif à notre célébration. L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. L'homme devient image de Dieu, moins au moment de la solitude qu'au moment de la communion. Magnifique descriptif de ce qu'est la vocation au mariage. Pour conclure, permettez-moi de livrer à notre méditation ces quelques mots de Tertullien, l'un des premiers grands théologiens de l'histoire. Il écrivait à sa jeune épouse « Où vais-je puiser la force de dire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église propose, que l'Eucharistie confirme, que celle la bénédiction ?» Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, prions pour la vocation au mariage, prions pour vos familles, pour nos familles, et prions pour tous ces évêques du monde réunis autour du pape en synode.